Nous élevons ton nom, Seigneur, ce matin. Est-ce qu'on peut simplement se lever et dire à notre Seigneur et à notre Dieu, sois glorifié ce matin. Merci pour ta présence. Sainteté à notre Dieu. Sainteté à notre Dieu. Et le lieu dans lequel nous sommes est saint parce que Dieu est là. Et nous voulons simplement lui donner toute la gloire, l'honneur et le règne. Et nous continuons à déposer nos pensées, à déposer nos cœurs, à nous prosterner devant toi. Merci, cher Saint-Esprit, de nous communiquer ce qui vient du Père. Merci, Christ, parce que tu as tout accompli comme on l'a déclaré. Et nous voulons te dire à toi la gloire, l'honneur et le règne. Merci, Père, pour la foi qui est libérée dans nos cœurs. Merci pour l'espérance en toi. Merci pour ta présence. Merci parce que un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Et Seigneur, merci parce que ta parole est la vérité. Merci parce que dans ta présence, le mensonge se dissipe, l'incrédulité fuit. Et Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous voulons, Seigneur, d'ores et déjà te dire, nous voici, je viens vers toi. Dans mon cœur, tout mon être, Seigneur, je viens vers toi. Je m'approche de toi ce matin. Et nous nous approchons ensemble de toi. Tu es la tête de l'Église, nous sommes le corps. Et merci parce que tu sauves encore aujourd'hui. Seigneur, tu libères, tu guéris comme tu l'as fait, Seigneur, la semaine dernière. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Et nous voulons te dire, nous voici. Déposons à ses pieds toutes... Je voyais tout à l'heure, j'ai mis le genou par terre et je voyais comme dans la présence de Dieu, le Seigneur qui vient. Et je voyais des poids qui tombaient, des chaînes qui tombaient. C'est comme si quand la présence du Père est là, à ce moment-là, ça fait une différence. Et c'est ce que Dieu est en train de faire pour nous. Et il nous encourage, et il nous invite à dire, mais approche-toi. Comme on l'a entendu, les paroles qui ont été partagées viennent du Seigneur, et je les saisis pour ma vie. Et lorsque Dieu parle, c'est parce qu'il veut agir. Il ne parle pas pour ne rien dire. Alléluia, gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Père. Amen. Il y a de l'espérance et de la joie dans la présence du Seigneur, même si on a des soucis. Amen. Fait du bien, non, d'être dans la présence de Dieu. Merci pour les paroles qui sont vraiment de la part du Seigneur ce matin. J'ai eu à cœur ce texte dans Jean chapitre 6 et j'étais un peu étonné parce que je me dis mais finalement c'est le même thème qui était sur mon cœur il y a quelques semaines de cela et le thème c'est dans cette période de l'Avent, Christ a quitté son ciel de gloire pour venir sur la terre et il est venu pour réconcilier le monde avec lui-même, avec le Père. Et on a partagé, vous vous souvenez, les trois obstacles. On avait partagé trois obstacles concernant notre marche avec Dieu, notre marche avec le Seigneur, pour quotidiennement le suivre. Là, on est le dimanche matin, on loue Dieu, c'est magnifique. Demain, ça sera le travail, ça sera d'autres problèmes. Et j'ai à cœur de partager la chose suivante, vous avez vu le titre. C'est partir ou rester. Alors d'ores et déjà, partir ou rester de la présence de Dieu. Partir ou rester dans l'appel qu'il nous a confié. Est-ce que je pars ou est-ce que je reste? Et on a quotidiennement cette question. Et ce texte que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est le texte de Jean chapitre 6 et des versets 22 à 71, les versets suivent, peut-être pour retracer un peu le contexte, on avait partagé il y a longtemps, lorsqu'il y avait cette tempête, il y avait deux tempêtes qu'on a partagées, et ce matin dans Jean chapitre 6, nous avons la multiplication des pains, c'est un miracle, et à l'issue de ce miracle, vous avez le petit 3, c'est là où s'est déroulée l'action. Ils vont traverser, ils vont aller de l'autre côté du lac, les disciples avec Jésus, une autre tempête, et ils arrivent dans la région de Capernaum. Et quand ils arrivent là, eh bien, il y a un certain nombre de personnes, la foule, des disciples, des gens nombreux vont suivre Jésus. Ils veulent rester avec Jésus. Ils veulent aller là où il est. Et dans la région de Capernaum, il y a même des personnes de Tibériade qui vont arriver. Donc il y a un certain nombre de personnes qui vont le suivre. Alors, il y a beaucoup de versets. Je vous encourage à relire tranquillement le chapitre 6. Et puis, je me suis un petit peu amusé à mettre des couleurs. Et ces personnes qui vont suivre Jésus, qui vont vouloir être avec, à un moment donné, nous savons qu'il y aura un point de rupture au verset 66. Au verset 66, on se rend compte qu'à un moment donné, ils ne désireront plus rester, mais ils vont vouloir partir. Encore une fois, là, je parle de rester ou de partir de la présence de Dieu. Alors, il y a tout un dialogue très intéressant que je ne vais pas développer ce matin, des versets 22 jusqu'à 38. Il y a un dialogue qui va se créer entre ces personnes. Et j'ai séparé deux catégories de personnes, des versets 22 jusqu'au verset 66, jusqu'au moment où il est dit, dès ce moment, il est parlé de disciples. Beaucoup de disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec Jésus. Mais qu'est-ce qui a pu se passer? Qu'est-ce qui a pu se passer entre le moment où ces hommes et ces femmes vont le chercher, ils vont braver le lac, ils vont faire des kilomètres, et à un moment donné, face à Jésus, ils vont décider de ne plus rester avec Jésus. Et puis, la deuxième catégorie de personnes, on va parler des 12, et on verra cela dans Jean chapitre 6, versets 67 à 71. Et là, on va voir pourquoi d'autres personnes, des disciples, vont décider de rester. Et la question de base ce matin, c'est de se dire, quelle que soit mon expérience, quel que soit le nombre d'années que je suis Dieu, aujourd'hui, on l'a entendu d'ailleurs, c'est très, très, très intéressant, le Seigneur nous appelle à nous approcher, à venir. Parce que force est de constater que dans notre contexte, il y a le contexte géopolitique, il y a le contexte sanitaire, il y a le contexte de crise peut-être personnelle, on sait hein, que beaucoup ont des combats dans leur santé, des combats familiaux, des combats de tout ordre. Et dans ce contexte-là, il y a l'ennemi de notre âme qui ne nous fait pas de cadeaux et qui va essayer à tout prix de nous empêcher de suivre Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il est la source de vie. Non seulement nous avons la vie éternelle en lui, mais également il y a un projet de vie qui est extraordinaire. Alors, dans cette première partie, nous avons la multiplication des pains. J'imagine que ça devait être un événement extraordinaire. Le miracle, voilà, le miraculeux du Seigneur. La semaine dernière, je peux le partager, donc Ruth, la fille de Mercedes, m'a donné ce témoignage, m'a dit, mais la semaine dernière, quand Samuel a prié pour les malades, elle a été complètement guérie instantanément d'un torticolis qui la faisait souffrir. Elle a été guérie dans la journée. Et gloire à Dieu pour cela. Amen. Est-ce qu'il y a eu d'autres personnes qui ont été touchées et guéries? Certainement. Dieu fait des miracles encore aujourd'hui. Et dans l'évangile de Jean, lorsqu'on lit l'évangile de Jean, on se rend compte que l'objectif de Jean, lorsqu'il écrit, c'est quoi? La Bible nous dit dans Jean chapitre 20, les versets 30 et 31, il est dit que Christ a fait beaucoup de miracles. Il a fait beaucoup de miracles. Mais Jean va écrire dans son livre, dans son évangile, vous savez combien de miracles il va retracer? 7 ou 8 à peu près. Et quand il utilise le mot miracle, ce n'est pas dynamis, ce n'est pas acte de puissance, mais c'est Siméon, c'est les signes. Il va retracer des signes, des miracles. Pour quelle raison? Ceci a été écrit afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle. Autrement dit, lorsque Jean écrit, il y a un certain nombre d'encouragements pour croire, c'est son objectif. C'est ça la réalité. Et Jésus qui est là, lorsqu'il y a la multiplication des pains, verset 1 jusqu'au verset 20, 21, à ce moment-là, il est dit, mais il est parlé de signes, de poteaux indicateurs qui vont indiquer qui est véritablement est Jésus. Et ensuite, il va y avoir ce dialogue. Les gens vont le suivre. Pourquoi ? On sait. La tentation, c'est de... On en a déjà parlé, Samuel en a parlé, dans ces temps où on vit, malgré tout, dans un certain confort ici. Mais si jamais on ne pouvait plus se réunir, et si jamais on était impacté par des crises, des tests, des obstacles qui vont nous perturber jusqu'à remettre en question notre foi. Si notre foi est fondée, on le sait bien pour la plupart, si notre foi est fondée sur la bénédiction que je reçois, sur le bien-être, sur tout ce qui fait partie de ce pain gratuit, ces bénédictions, alors c'est bien parce que Dieu les envoie, mais il nous les envoie non pas pour que ça suffise en eux-mêmes. Quand Jésus fait le signe de la multiplication des pains, les gens viennent au verset 14 et ils vont dire, mais on réalise quoi ? Le poteau indicateur, ils vont dire, eh bien, nous savons que tu es un prophète venu de Dieu. Mais de savoir que Jésus est un prophète, c'est insuffisant. Ils veulent le faire roi. Et à ce moment-là, Jésus s'en va, parce que ce n'est pas le but de tous les miracles, les bénédictions qu'on peut avoir. Ça nous indique l'amour de Dieu, mais il veut aller plus loin. Et on verra que dans le développement des versets 25 jusqu'au verset 66, il y a un dialogue qui s'instaure. Et Jésus dira, à la demande de ces personnes qui le suivent, « Montre-nous un signe, fais un miracle. » Et Jésus dira, « Mais le signe, c'est que je suis le pain de vie, venu du ciel. Le Père m'a envoyé. » Et là, ça commence à se compliquer. Ça commence à se compliquer. Parce qu'il va susciter l'intérêt. Il suscite l'intérêt par la multiplication des pains. Les gens viennent et lui demandent. Et il va répondre, « Je suis le pain de vie envoyé du Père. » Et au verset 41, ceux qui l'ont suivi, ceux qui ont voulu le suivre, il est dit au verset 41, ils ont commencé à murmurer. Vous avez ça dans vos Bibles ? Il a commencé à murmurer. Ils ont commencé à murmurer. Ils murmurent pourquoi ? Parce que ce qu'ils entendent est très défiant en réalité. Le message de Christ est très défiant. Et il est là physiquement, et il va dire, je suis envoyé de Dieu, je suis ce pain de vie. Et le murmure nous rappelle quoi ? Ils vont évoquer la manne dans le désert. Et dans le désert, la manne envoyée par Dieu va servir au peuple pour traverser le désert et entrer dans leur héritage. L'amour de Dieu va pourvoir à ce dont on a besoin dans notre désert pour pouvoir traverser le désert et pour pouvoir entrer dans une nouvelle étape. Ce matin, la parole prophétique parlait de cette sensation que Dieu, finalement, ne nous parle pas, ne sait pas ce que l'on vit. Et voilà que Dieu, par le Saint-Esprit, nous dit en tant qu'Église, « Mais je sais ce que tu vis, je sais où tu en es, je sais les combats, je sais les frictions, je sais les difficultés. » Et dans l'Église de Christ, pas seulement ici, mais dans l'Église de Christ en général, il y a vraiment un temps de friction, il y a un temps de test, il y a un temps où on est tiraillé. Et ça peut venir de différents endroits. de différentes manières. Et la seule possibilité pour nous, c'est d'entendre ce que Dieu dit dans notre saison. Et il nous dit, je pourvois d'une manière surnaturelle avec ce pain, cette parole de vie qui va nous permettre de continuer à avancer dans ce désert. Est-ce que Dieu est absent ? Il est toujours là, même si on est dans le désert. Alors, il suscite l'intérêt, il va susciter également un peu la confusion, il va susciter des tensions, parce que d'un seul coup, ceux qui le suivent vont se dire mais comment c'est possible ? Vous pensez ça des fois ? Quand on passe par des moments difficiles, la théorie, je sais que beaucoup, on la connaît presque tous, hein. Mais quand on est face à une réelle difficulté, alors c'est le temps de l'épreuve, c'est le temps du test. Et c'est Proverbe, hein, dans Proverbe, il est dit que de la même manière que l'or est éprouvé, ou l'argent est éprouvé, eh bien Dieu éprouve notre cœur. Et quand il éprouve notre cœur, ce n'est pas pour nous faire souffrir, ce n'est pas pour nous dire on n'est pas bon. C'est juste pour enlever des scories, pour enlever des choses qui, dans notre cœur, finalement, quelquefois, sont des freins à notre marche avec lui, relation avec lui et également notre service pour lui. Les temps de tension ne sont pas là pour nous détruire, mais avec Dieu, sont là pour nous amener dans une nouvelle étape. Et une nouvelle étape de foi. Et donc, les personnes qui entendent cela se disent, mais comment c'est possible que Jésus, qui est en chair et en os, dit, mais il vient de la part de Dieu, et qui plus est, il va parler du Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, c'est un titre pour le Messie. Alors Jésus, que va-t-il faire à ce moment-là ? Est-ce qu'il va leur dire, écoutez, c'est vrai que c'est un peu compliqué ce que je suis en train de vous dire, on va revenir à des choses plus faciles. Que fait Jésus à ce moment-là ? Il va non seulement dire « Je suis le pain de vie », mais il va continuer en disant « Mais vous savez, à moins que vous ne mangiez mon corps et que vous buviez mon sang, eh bien, ça ne fonctionnera pas, vous n'aurez pas la vie. » Et là, on est dans une logique qui est non pas une logique humaine, mais qui est une logique divine. Parce qu'en disant cela, il ne va pas arranger les choses, mais il va aggraver les choses, dans le sens humain. Parce que c'est scandaleux pour des Juifs. Alors, ils ne vont plus être dans le murmure, mais il est dit dans la parole de Dieu, au verset 51, il est dit, ils vont commencer à discuter vivement. Ils passent des murmures à une discussion vive. Dans le grec, c'est « ils se disputent ». Il y a un conflit. C'est là, on murmure plus, on est dans le conflit. Le conflit entre l'aspiration charnelle humaine de manger du pain, de vivre des miracles de Dieu, et voilà que Jésus est en train de dire qu'il est le Fils de Dieu, et qu'en disant qu'ils vont devoir manger sa chair, et boire son sang, on sait que si on avait entendu cela à cette époque, c'était complètement incompréhensible. Franchement, c'était incompréhensible. Nous, on a le Nouveau Testament, on a tout ce qu'il faut pour comprendre. Mais à l'époque, d'entendre ça, c'était juste incompréhensible. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas eu la croix, il n'y avait pas eu encore l'ordonnance de la Sainte Cène, il n'y avait pas eu tout cela. Autrement dit, Jésus est en train de dire des choses qui sont incompréhensibles à ses auditeurs. Ce n'est pas pédagogique, hein, tout ça. Allô ? Vous êtes là ? C'est étonnant. On pourrait dire, humainement, il ne se met pas à la portée de son auditoire. Et ce qui se passe, eh bien, devait arriver, ce qui devait arriver arriva, c'est que vraiment là, pour le coup, ils sont vraiment en colère. Ils sont vraiment en colère par rapport à ce qu'ils entendent. Et ils vont dire, cet enseignement, et là on parle aussi de disciples, ils diront, mais ton enseignement est dur. Qui peut l'écouter ? C'est une version soft en français. Hein. La réalité, c'est que ça veut dire « ton enseignement est insupportable, il est tout simplement inacceptable. » Inacceptable. Alors, Jésus suscite l'intérêt, il va susciter finalement l'incompréhension, il va susciter des tensions, et finalement, Jésus va susciter le rejet de son enseignement et le rejet du fait de le suivre. Ça veut dire qu'à un moment donné, ceux qui entendent cet enseignement vont dire « c'est juste inacceptable, alors je décide de partir, je décide de partir ». Vous avez la même Bible que moi, c'est ça hein, que ça veut dire. Et le bilan de cela, c'est que parmi tous ceux qui suivaient Jésus à ce moment-là, il y a plein de gens qui partent, il y a plein de gens qui partent. Et là, c'est l'heure du bilan. Et j'imagine le bilan avec le Père en disant « Jésus, là, ton Église, t'es sûr que ça va? T'es sûr que tu fais bien les choses? T'es sûr de ça? Mais t'as vu tous ceux qui partent? Et il faut te ressaisir, là. Allô? Est-ce que Jésus va se dire « Ouh, j'ai été trop loin, là. Je vais vite essayer de les rattraper. » Là, on parle toujours de rester ou de partir de sa présence, de son appel. Alors, à ce moment-là, Jésus va, pour ceux qui connaissent bien le texte, il va se retourner vers les 12. Je ne sais pas s'il en restait que 12 à ce moment-là. Mais il va se retourner vers eux et il va leur dire « Mais est-ce que vous ne voulez pas partir, vous aussi ?» Tant qu'on y est, elle ne voulait pas partir aussi. Et là, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe. Et pour nous, c'est un bel enseignement en réalité. Parce que le cœur du Père, en Christ, c'est de nous faire progresser dans notre compréhension et dans notre engagement. Et Jésus savait pertinemment que la réalité, le défi, c'était qu'il soit reconnu, non pas comme un prophète faisant des miracles, mais reconnu comme étant Dieu lui-même, le Seigneur, le Sauveur, le Maître, le Roi. Et on pourrait se dire, mais c'est mission impossible. Je n'ai pas forcément le temps de développer tous les versets qui disent « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire ». Et dans ce passage-là, il y a trois passages qui parlent de cela. En disant, mais humainement, charnellement, avec nos neurones, on ne peut pas comprendre. Mais la réalité, c'est que le Père nous attire par son amour et permet que nous soyons au contact de la parole de Dieu. Dieu, dans son amour, permet que nous puissions entendre l'Évangile. Je bénis Dieu le jour où je suis entré dans une salle neutre, mais où l'Évangile a été annoncé. Et ça a été un défi pour moi, dans ma compréhension, dans ma conception. Mais l'amour du Père nous attire pour que nous puissions avoir la parole de Dieu. L'amour du Père nous attire pour qu'on puisse avoir la Bible. L'amour du Père nous attire pour nous mener vers ceux et celles qui sont dans la foi plus forts que nous. Non pas, ils ne sont pas Dieu, mais ils sont plus forts. L'amour du Père nous attire pour que nous puissions entendre sa parole comme on l'a entendu ce matin au travers des dons. C'est l'amour du Père. Et lorsque nous sommes face à sa parole, qu'on soit dans notre chambre avec la parole de Dieu, qu'on soit sur le net, qu'on soit dans la salle. Quand Dieu parle, c'est parce que Dieu le Père, dans son amour, nous a attirés pour que nous puissions entendre sa parole. Pour que nous puissions nous approcher de Jésus qui a tout accompli à la croix. Le chemin est ouvert. Lorsque nous nous approchons de Dieu en Christ, alors tout devient possible. Tout devient possible. Amen. Ça, c'est la réalité. Et de la même manière que le Père dira, Jésus dira, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Jésus dira, mais nul ne vient au Père que par moi. Il y a un travail d'équipe extraordinaire entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, quand il pose la question, et peut nous poser la question, ce matin en disant, mais tu as des épreuves, tu es sous pression, est-ce que tu veux partir de sa présence, de son plan? Bien sûr, posé comme ça, on peut se dire, mais c'est un peu radical votre histoire. Hein, mais en même temps, les temps de crise sont des temps de transformation et qui révèlent la réalité de ce qu'on a dans le cœur. Et quand il pose la question aux 12, Pierre, on sait, hein, c'est un fonceur, il n'a pas peur de parler. Il dit, mais Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ici, il ne s'agit pas de dire partir c'est mal et rester c'est bien. Parce que Christ a quitté le ciel de gloire. Ça, c'est chouette. Hein, c'est bien pour nous. On peut se dire, le peuple d'Israël, quand la nuée bougeait, il partait. Mais quand la nuée restait, il restait. Quand Jean-Marc quitte les disciples en pleine mission, ben, c'est pas top, quoi. Mais par contre, il a encore une chance de revenir. Donc la question, ce n'est pas de dire, est-ce que je dois quitter ou est-ce que je dois rester dans un travail, mon pays, une église? La question, elle n'est pas forcément là. La véritable question, c'est de se dire, mais quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Quel est le cœur de Dieu pour ma vie? On a été dans, voilà, certain nombre d'années dans le ministère. Et puis, il y a une période de notre service où, les 4 dernières années, on avait dans notre cœur de partir. Et puis, en plus, le Seigneur nous l'avait dit. Le Seigneur nous avait dit, 4 ou 5 ans avant, voilà mon plan pour vous. On savait qu'on allait changer de pays. Et quand Dieu nous parle, au travers de certains frères et sœurs, c'était des prophètes hollandais, et ils nous regardent, ils ne nous connaissaient strictement pas, ça faisait peut-être 10 ans, 11 ans qu'on servait là où on était, et ils vont prophétiser ce qu'on avait reçu dans notre cœur. Et ils ont dit, mais voilà, il y a un changement, mais avant, il y a telle et telle saison. Et cette saison-là, honnêtement, si on avait eu le choix, on serait parti. On serait parti. Mais comme Dieu nous avait dit, ok, c'est mon plan, je vais vous montrer, vous n'allez pas vous tromper, mais vous avez encore une saison. Et ça a été un choix difficile. Ça a été un choix difficile. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait ce qui nous fait plaisir, ce que l'on pense être bien, ou est-ce qu'on répond tout simplement à ce que Dieu nous dit? Et on a, par la grâce de Dieu, on est resté. On a servi Dieu de tout notre cœur et on n'a pas vu tellement le sens au départ. Et puis après, on a été dans un autre pays, on a servi Dieu, où là, on voulait rester. Et Dieu, tout de suite, nous a dit, vous n'allez pas rester. Alors, est-ce que Dieu se plaît à nous contrarier? Bon, on apprend que c'est Dieu qui a toujours raison. Hein. Il ne se trompe pas. Avec le recul, on a vu que Dieu, au travers de ces crises, avait travaillé profondément notre cœur. Profondément. Dans la première partie, ça a été d'apprendre la loyauté, la persévérance, de servir la vision de quelqu'un d'autre, mais d'avoir ce cœur de serviteur. On l'a appris dans la douleur, il faut le dire. Hein. On a fait des erreurs. Mais la réalité, c'est qu'après, on ne voit pas toujours tout de suite. Hein. Mais le travail dans notre cœur a été celui-ci. Ça a été un travail en profondeur. Et puis, là où on servait, là où on avait envie de rester, le Seigneur nous dit, partez. On a obéi en pleurant, quoi. Franchement. Et puis, en même temps, même si ça a été douloureux, on a appris une belle vérité, mais pas avec notre tête, avec nos entrailles. Et là, ce qu'on a appris, ça a été de craindre Dieu en premier et de ne pas avoir peur des hommes. Parce que Dieu dit, béni soit l'homme ou la femme qui se confie en Dieu, mais maudit l'homme et la femme qui se confient en l'homme. Ça peut être nos propres pensées, ça peut être les autres. Et cette leçon-là, on l'a apprise dans la douleur, mais aussi dans l'obéissance. Et du coup, on a appris, on n'est pas parfait, loin de là, mais c'est ce qu'ont appris les 12. Alors qu'ils ont entendu, un enseignement qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Et voilà que Pierre dira, et ça peut nous aider, il y a 3 aspects qui peuvent nous aider si on est dans un temps de crise où on a envie de lâcher la main du Seigneur. C'est de dire, mais Pierre, quand il répond, qu'est-ce qu'il répond, Pierre ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, mais en plus, il ne réfléchit pas 107 ans. Hein. Et vous ne voulez pas partir ? Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Autrement dit, je ne vois pas d'autre solution que de te suivre. Parce que franchement, on a essayé plein de trucs. Et il n'y a que ta présence, il n'y a que tes paroles. Franchement, il y en a qui mettent toute une vie pour comprendre ça. Et je ne les juge pas. Hein. Et chacun a son chemin, chacun son expérience. Mais certains disent, ont entendu la parole de Dieu quand ils étaient jeunes. Et puis, ont essayé plein de religions, philosophies, plein d'expériences. Mais pour certains, j'ai connu un homme, un frère, qui est revenu à Dieu quand il avait 70 ans. Il a vécu un réveil, on aurait dit un jeune converti. Mais il a dit, mais qu'est-ce que j'ai perdu comme temps, quoi. Vraiment. Et Pierre était avec les 12, de dire, mais où est-ce qu'on peut aller ? Il n'y a que toi qui as du goût, il n'y a que la présence de Dieu, il n'y a que le plan de Dieu pour notre vie, finalement, qui vaut le coup d'être vécu sur la terre. Parce que finalement, sur la terre, c'est qu'une étape. Et quand on sera dans le ciel, Jean-Pierre a partagé des belles choses aux aînés hier matin, et ça a été précieux de dire, mais quel que soit notre âge, que notre vie serve pour le service de Dieu, que notre vie, on n'est pas parfait. Mais c'est ce que dit Pierre, dira, mais il y a cette conviction que sans Dieu, sans lui, ça n'a pas de goût, quoi. Tu as les paroles de la vie éternelle. Il ne dit pas, écoute, Jésus, ce que tu dis est très intéressant. Et puis, entre autres, tu es un de ceux qui ont les paroles de la vie éternelle. La réalité, c'est qu'il y a une forme d'exclusivité qui choque aujourd'hui. Mais la réalité, c'est ça. C'est qu'il n'y a qu'un seul chemin pour venir vers le Père. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est Christ. Il n'y a qu'une seule porte. Mais vraiment, c'est ça. Et ils ont choisi d'accepter de ne pas comprendre l'enseignement de Jésus. Ils n'ont pas eu toutes les pièces du puzzle. Ils n'ont pas toujours tout compris. Mais ils ont dit, qu'est-ce que Pierre a dit de la part des 12 ? Et nous avons cru. Ça veut dire quoi ? J'adhère pas à quelque chose un enseignement intellectuel. Nous choisissons de nous confier en toi et de marcher et de te suivre. Ça leur a coûté leur travail, ils ont quitté leur famille, ils arrivent à un point où tout le monde part. Ils peuvent se dire, mais tout le monde part, est-ce que c'est une bonne idée de rester, quoi ? Mais pourquoi ils vont rester ? Et pourquoi les autres partent ? La clé, il y a 2 clés de compréhension dans ce texte. La première, c'est la foi ou l'incrédulité. L'incrédulité dans la parole de Dieu, apistis, c'est l'absence de foi, l'absence de vouloir se confier dans la parole de Dieu et en Christ. Et ce matin, alors que je vais conclure, je vais nous inviter à manifester l'expression de notre foi, de notre confiance. Et cette confiance-là va leur permettre de continuer à marcher avec Jésus. Ils ont une connaissance limitée. Mais il est dit que quand Jésus a parlé concernant le signe du pain de vie, il a dit « Mes paroles sont esprit et vie ». De la même manière qu'avec Nicodème, il avait dit « Mais si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu ». Incompréhensible. On peut comprendre que par le Saint-Esprit. Et ici, c'est pareil. Et on ne peut pas dire qu'à ce moment-là, ils ont déjà goûté, puisqu'il dira, Pierre, nous croyons et nous savons. Savoir, ce n'est pas intellectuel. Nous savons cette conviction que tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cette conviction que ce que tu as commencé, eh bien, tu vas l'achever. Nous avons cette conviction. Et nous avons besoin, dans cette période-là, frères et sœurs, d'avoir des convictions qui viennent du Saint-Esprit, qui viennent de Dieu, basées sur la parole de Dieu. Conviction de savoir s'il faut rester, changer de travail, peu importe. Mais si la nuée se lève, on y va. Si la nuée reste, on reste. Pas basé sur tout ce que l'on peut entendre, mais basé sur une conviction qui vient du Saint-Esprit. Sinon, on ne tiendra pas. Amen. On ferme nos yeux et on se tient devant le Seigneur. Et on sait comment ils ont fini. Hein. Ils ont continué. Ils ont vu la résurrection. Ils ont vu l'ordonnance de la Sainte Cène. Quand Jésus, lors de la Pâque, a dit « Mais faites ceci en mémoire de moi. Prenez ce pain, prenez ce vin. Mangez-en. À l'intérieur, ça va vous transformer. Non pas le pain et le vin physique, mais la présence du Seigneur. La présence du Saint-Esprit. » Et à ce moment-là, ça a dû prendre tout le sens. Ils ont dit, ah mais maintenant on comprend. Maintenant on comprend. Ils ont vu la résurrection. Ils ont vécu la Pentecôte. Et par le Saint-Esprit, tout s'est éclairé. Si à ce moment-là, ils étaient partis, ils auraient raté ça. Et quelquefois, on abandonne trop vite. Et c'est la raison pour laquelle on n'entre pas pleinement dans le plan de Dieu. Prions ensemble. Alléluia. Merci Père. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alors quand on a les yeux fermés, j'avais à cœur simplement pas de se lever ni lever la main, mais que dans notre cœur, on puisse simplement répondre à ce que le Seigneur nous dit depuis le début de ce culte. À savoir, est-ce que tu es d'accord de continuer même si tu ne comprends pas tout ? Est-ce que tu es d'accord ? Et il y a cette position de foi, non pas de tout comprendre, non pas de tout ressentir, même si on ne ressent rien, ce n'est pas un gage de la présence ou de la non-présence du Seigneur. Mais alors qu'on est dans sa présence, j'invite le Saint-Esprit à venir renouveler notre intelligence. J'invite le Saint-Esprit à nous renouveler dans la foi, à nous stimuler. Et il y a cette invitation que personne d'autre ne pourra faire que nous, même pas le Seigneur, de lui dire dans notre cœur, Seigneur, Christ, me voici, je veux continuer à te servir, je veux continuer à te suivre. Même si je ne comprends pas, même si je souffre, même si ça bataille. Mais je sais que toi tu sais, si moi ça ne prend pas de sens, ça n'a pas du sens ce que je suis en train de vivre, mais pour toi ça a du sens. Et des fois on comprend un an après, 5 ans après, 10 ans après, et puis pour d'autres choses on pourra comprendre lorsqu'on sera avec lui pour l'éternité. Mais l'enjeu ce matin c'est de dire, me voici. Je me souviens de ce temps, de ce rendez-vous, et Patrick le disait tout à l'heure, il parlait de rendez-vous avec le Seigneur. Et je crois que c'est un rendez-vous personnel avec le Seigneur. Et le Seigneur est là par son Saint-Esprit, et en même temps, il a besoin d'avoir notre accord, de dire, mais qu'est-ce que tu veux faire ? Est-ce que tu veux continuer ? Est-ce que tu veux marcher avec moi ? Continue à me faire confiance. Et alors que nous parlons dans notre cœur au Seigneur, parlons-lui, le Seigneur est en train d'agir, il est en train de parler, il est en train d'agir, il est en train de guérir nos cœurs, il est en train d'agir et de mettre cette paix surnaturelle, il est en train de mettre cette conviction, je ne te lâcherai pas, je ne t'abandonnerai pas. Dieu est garant de sa parole. Amen. Parlons au Seigneur. Et nous pouvons dire ensemble, jamais je ne raterai un de tes rendez-vous, Seigneur. Que tu me demandes de rester ou que tu me demandes de partir, Seigneur, tes rendez-vous, je ne veux pas les rater. Et il y a quelqu'un qui a peur et se dit, mais comment je peux faire pour savoir? Comment je peux savoir si c'est vraiment le Seigneur? Et le Seigneur nous dit, mais tu es son enfant. Et comme un père prend soin de son enfant, il ne permettra pas que tu te trompes. Il ne permettra pas que tu te trompes dans le timing. Et même si tu te trompes, eh bien le Seigneur te redonne une possibilité de te réaligner avec le Seigneur. Et il te donne aussi, ça c'est un petit peu mystérieux, il nous demande aussi la permission d'aller plus loin. Et pour certains, vous vous dites, mais j'en ai assez de souffrir, j'en ai assez. Et j'ai eu cette image de Paul lorsqu'il va à Jérusalem et le prophète lui dit, mais si tu vas à Jérusalem, tu vas être enchaîné, tu vas souffrir. Et quand il lui dit cela, il n'est pas en train de l'informer parce que Paul savait déjà que ça allait être compliqué. Mais Dieu est en train de lui dire, écoute, tu as déjà beaucoup donné, tu t'es vraiment investi. Écoute, tu as la possibilité de choisir. Tu peux t'arrêter là ou tu peux continuer dans mon service, dans le sens de service. Pas de partir de la présence de Dieu, pas de partir de la volonté de Dieu, mais de dire, mais je sais ce que tu as souffert et tu as cette possibilité, tu as le choix. Dieu n'est pas un dictateur et ne se plaît pas à notre souffrance. Et Paul dira quelque chose d'extraordinaire, mais je sais tout ça. J'y vais en connaissance de cause, je sais que je vais souffrir, mais j'y vais parce que je choisis d'y aller, parce que ma vie est pour Christ, ma vie est à son service, ma vie, elle est là pour qu'un maximum puisse rencontrer Christ, puisse rencontrer la bonne nouvelle, puisse être transformé. C'est ça qui a du sens. Et en tant qu'Église, il y a ce défi aujourd'hui de dire, Seigneur, nous voici et on veut continuer. Persévérer pour qu'un maximum dans cette région et au-delà puisse connaître l'amour de Dieu et puisse être réconcilié avec le Père. Amen.